Chapitre 17. Jump City. Elle se réveilla avec la paume froide de Sally appuyée contre la bouche, l'autre main lui intimant le silence. Les petites lampes installées dans les panneaux des miroirs constellés d'or étaient allumées. On avait ouvert une de ses valises sur le lit, près d'un tas de vêtements bien rangés. Sally posa son index sur ses lèvres fermées, puis montra le bagage et les habits. Kumiko s'extirpa de la couette et enfila un pull pour se protéger du froid. Elle regarda de nouveau Sally et envisagea de parler. Elle ignorait ce dont il s'agissait, mais elle se dit qu'un seul mot pourrait faire rappliquer Pétale. La femme était vêtue comme la dernière fois où Kumiko l'avait vue, avec la veste en peau de mouton, son écharpe écossaise nouée sous le menton. Elle répéta son geste « Fais tes valises ». Kumiko s'habilla rapidement puis commença à ranger ses affaires dans le bagage. Sally, agitée, allait et venait en silence dans la pièce, ouvrait des tiroirs, les refermait. Elle trouva le passeport de Kumiko, une carte en plastique sombre avec un chrysanthème doré inscrit en relief. Et elle le passa autour du cou de la jeune fille sur son cordon de nylon noir. Elle disparut dans le box lambrisé et en sortit avec la trousse de toilette en daim de Kumiko. Au moment où celle-ci refermait la valise, le téléphone ivoire et or se mit à sonner. Sally ne s'en soucia pas. Elle s'empara du bagage sur le lit, ouvrit la porte, prit la main de Kumiko et l'entraîna dans le couloir ténébreux. Elle lâcha la jeune fille et referma derrière elle, ce qui étouffa le son du téléphone et les laissa dans le noir complet. Kumiko suivit sa guide jusqu'à l'ascenseur qu'elle reconnut grâce à l'odeur d'huile et de vernis, ainsi qu'au raclement de la porte métallique. Puis, elles descendirent. Pétale les attendait dans le hall d'entrée bien éclairé, enveloppé dans une immense robe de chambre à carreaux décolorés. Il portait ses chaussons usés. Sous le rebord du peignoir, il avait les jambes très blanches. Il tenait un pistolet dans une main, une petite arme épaisse d'un noir mat. « Putain de merde !» dit-il doucement en les découvrant. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?»«
Elle part avec moi !» annonça Sally.
« Ce n'est pas possible, ça !» souffla Pétale.
« Kumi, » dit Sally, une main dans le dos de Kumiko pour la guider hors de l'ascenseur. « Une voiture attend. »«
Tu ne peux pas faire ça !» déclara Pétale.
Kumiko sentait son trouble, ses doutes.
« Alors, tire, Pétale !»
Il baissa l'arme.
« C'est Swain qui va me tirer dessus si tu fais ça. S'il était là, il ferait face au même dilemme, pas vrai ?»«
Je t'en prie, » dit Pétale, « ne fais pas ça. »
« Elle ne risque rien, ne t'en fais pas. Ouvre la porte. »«
Où allons-nous, Sally ?» demanda Kumiko, dans l'étendue. Elle s'éveilla de nouveau, recroquevillée sous la veste en peau de mouton de Sally, dans les légères vibrations d'un vol supersonique. Elle se rappela l'immense voiture basse qui attendait dans la rue en croissant. Les projecteurs qui s'étaient allumés sur la façade des maisons de Swain quand Sally et elle avaient atteint le trottoir. Le visage en sueur de Tic, aperçu à travers une des vitres du véhicule, Sally qui ouvrait une portière et la faisait entrer, Tic qui pestait dans sa barbe tandis que la voiture accélérait. Le crissement des pneus lorsqu'ils avaient pris un virage trop serré sur Kensington Park Road. Sally lui demandant de ralentir, de laisser le véhicule conduire. Et là, dans le véhicule, elle s'était souvenue qu'elle avait rangé l'appareil Maas Neotech dans sa cachette, derrière le buste de marbre. Abandonné Colin et sa tenue de chasse à cour, les coudes de sa veste, aussi usés que les chaussons de Pétale, réduit à ce qu'il était, un fantôme.
« 40 minutes, » dit alors Sally sur le siège derrière elle. « Tu as dormi, c'est bien. Ils ne vont pas tarder à nous apporter le petit déjeuner. Tu te souviens du nom sur ton passeport ?»«
Bien, bon, maintenant, ne me pose plus de questions avant que j'aie bu mon café, d'accord ?»
Kumiko avait vu l'étendue dans un millier de steam. La culture populaire japonaise restait fascinée par l'immense conurbation. Elle avait quelques idées préconçues sur l'Angleterre à son arrivée, de vagues images de quelques bâtiments célèbres, impressions floues sur une société que les siens estimaient désuète et en pleine stagnation. Dans les histoires de sa mère, la princesse ballerine découvrait que les Anglais, bien qu'admiratifs, n'avaient pas les moyens de la payer pour danser. Londres, jusqu'ici, avait détrompé ses attentes
Avec son énergie, sa richesse bien visible et ses grandes rues commerçantes aussi fréquentées que celles de Ginza. Elle avait beaucoup d'idées préconçues sur l'étendue, qui furent battues en brèche en quelques heures, quand elle y débarqua. Mais tandis qu'elle patientait près de Sally dans une file avec d'autres voyageurs au sein d'une vaste salle de douane dont les supports du plafond se perdaient dans des ténèbres interrompues à intervalles réguliers par des globes pâles, globes cernés, même en hiver, de nuées d'insectes, comme si le bâtiment possédait son propre climat, elle se retrouvait dans l'étendue d'estime qu'elle s'était imaginée, la toile de fond électrique et sensuelle des vies trépidantes d'Angela Mitchell et Robin Lanier. Elles passèrent la douane, qui, malgré la longue attente, ne consistait qu'à faire glisser son passeport dans une fente métallique bien huilée, et entrèrent dans une salle en béton agité où des chariots à bagages sans chauffeur traversaient lentement une foule compacte à la recherche des transports en commun. Quelqu'un prit sa valise, se baissa et s'en empara, avec une aisance et une confiance qui sous-entendaient qu'il en était chargé, qu'il s'agissait d'un employé effectuant son travail, comme les jeunes femmes qui s'inclinaient pour lui souhaiter la bienvenue dans les grands magasins de Tokyo. Et Sally lui donna un coup de pied à l'arrière du genou, en pivotant avec grâce, tel ses box-style dans la salle de billard de Swain. Et elle lui reprit le bagage avant que sa nuque ne heurte le sol en béton dans un craquement. Puis Sally l'entraîna à sa suite. La foule s'était concentrée autour de la silhouette par terre. Et cette manifestation soudaine de violence ordinaire n'aurait pu être qu'un rêve. Sauf que son accompagnatrice souriait pour la première fois depuis qu'elles avaient quitté Londres. Désormais complètement désorientée, Kumiko regarda Sally passer en revue les véhicules disponibles, soudoyer un employé en uniforme, intimider trois autres clients potentiels et pousser Kumiko vers un aéroglisseur cabossé et rayé aux bandes diagonales jaunes et noires. L'habitacle, vide, ne semblait guère confortable. Le chauffeur, s'il y en avait un, restait invisible derrière une cloison taguée en plastique blindé. Le bout d'une caméra vidéo dépassait à la jonction de la séparation et du toit. Et l'on y avait dessiné une silhouette grossière, un torse d'homme, avec la caméra pour phallus. Quand Sally monta et referma la portière derrière elle, un haut-parleur grésilla dans une langue que Kumiko supposa être un dialecte anglais. « Manhattan ?» dit Sally. Elle prit une liasse de billets dans la poche de sa veste et l'agita devant la caméra. Quelques grognements interrogatifs jaillirent de l'enceinte. « Midtown, je vous dirai quand on y sera. » La jupe du taxi se gonfla, la lumière dans l'habitacle s'éteignit, et elles partirent.